de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La décision de Trump annule les États-Unis payent à l'OMS. Il n'y a pas de nouvelle variante du coronavirus en Indonésie. Des millions de Texas font face à des températures extrêmement froides sans eau et électricité. 11 000 doses de vaccin Ebola devraient arriver en Guinée ce week-end. Le ministre des Affaires étrangères indonésien et singapourien se sont réunis pour discuter de la question de la Birmanie et des mesures de l'ASEAN. Le président Jokowi inaugure le barrage Tapin dans le sud de Kalimantan. Le gouvernement indonésien accélérera le développement de l'industrie des véhicules électriques. Voici le journal complet. Les États-Unis payeront plus de 200 millions de dollars, soit environ 2,8 billions de rupiah, à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, après avoir annulé leur adhésion. Citant l'AFP jeudi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que ce chiffre était un engagement que les États-Unis avaient pris envers l'OMS. Jusqu'à présent, l'Amérique est le plus grand donateur de l'OMS. Blinken a déclaré que les États-Unis fourniraient également un soutien financier important à COVAX. COVAX est un mécanisme conçu pour garantir la disponibilité de l'accès au vaccin COVID-19 dans le monde de manière rapide, juste et équitable. Le porte-parole du groupe de travail sur le traitement de COVID-19, Wiku Adhisa Smito, a déclaré que jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelle variante du coronavirus trouvée en Indonésie depuis la mise en œuvre de la politique de resserrement sur le voyage international en décembre 2020. On sait que l'Indonésie a renforcé l'arrivée de voyageurs étrangers après la découverte de nouvelles variantes de COVID-19 B.1.17 en provenance du Royaume-Uni dans plusieurs pays. Wiku, lors d'une discussion virtuelle jeudi, a déclaré que l'Institut Edgeman avait mené une surveillance en utilisant la séquence du génome entier. Sur l'échantillon total, 244 cas ont été prélevés au hasard et il a été constaté que jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelle souche B.1.17 du Royaume-Uni en Indonésie. Wiku espère que la politique de resserrement de voyages internationaux pour protéger le public de la propagation de nouvelles variantes du virus. Le temps de froid extrême au Texas aux États-Unis se poursuit entre dans le sixième jour jeudi heure locale. Les habitants sans électricité et sans eau ont du mal à survivre en plein hiver. Rapporté par Reuters jeudi, le froid extrême qui déclenche une augmentation des charges d'électricité a contraint les opérateurs électriques du Texas à mettre en œuvre des pannes tournantes. Plus de 4 millions de personnes au Texas sont sans électricité depuis le début de cette semaine. Les approvisionnements en eau ont également été touchés. Les canalisations et les vannes gelées. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le ministère guinéen de la santé ont indiqué jeudi que plus de 11 000 doses de vaccin Ebola devraient arriver en Guinée ce week-end et que les vaccinations peuvent commencer dès lundi. Le directeur de l'OMS pour la région africaine, Matshidiso Muti, a déclaré lors d'une conférence de presse que 11 000 doses de vaccin étaient en préparation en Genève, tandis que 8 600 doses supplémentaires seraient envoyées aux États-Unis. Le conseiller principal du ministère guinéen de la Santé, Mohamed Lamine Yansane, a déclaré lors d'une conférence de presse dès que le vaccin a atterri en Guinée dimanche et que les vaccinations pourraient commencer le lendemain. Les autorités sanitaires régionales et les organisations internationales sont déterminées à arrêter l'épidémie de la maladie en Guinée et au Congo en 2013-2016 en Afrique de l'Ouest, qui a fait plus de 11 300 morts. Principalement en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia, elle est devenue l'épidémie d'Ebola la plus meurtrière de l'histoire. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue singapourienne, Vivian Balakrishnan, se sont rencontrés jeudi à Singapour pour discuter des développements de situation en Birmanie et des mesures que l'ASEAN pourrait prendre. Le ministère des Affaires étrangères de Singapour, dans un communiqué publié jeudi par Antara, a déclaré que les deux ministres étaient convenus que l'ASEAN pourrait jouer un rôle important en facilitant le dialogue constructif et en restaurant la normalité et la stabilité en Birmanie. Par conséquent, les deux ministres ont encouragé l'ASEAN à tenir immédiatement une réunion ministérielle informelle afin de prendre en compte les voeux des pays membres sur la question. À l'occasion, Balakrishnan a appelé toutes les parties en Birmanie à retenir et à réduire les tensions. Le président Joko Widodo a inauguré le barrage Tapin situé dans le village de Pipitak Jaya en région de Tapin, Kalimantan du Sud. Le président Joko Widodo au barrage Tapin dans le sud de Kalimantan a déclaré jeudi que le barrage avait été construit depuis 2015 et dépensé un budget de 986 milliards de rupiah. Le barrage a une capacité de 56,7 millions de mètres cubes d'eau qui joue un rôle très important dans la lutte contre les inondations ainsi que dans le renforcement de la sécurité alimentaire car il peut irriguer 5 472 hectares et fournir de l'eau brute de 0,5 mètres cubes par seconde. Le barrage peut également produire 3,3 MW d'électricité. Selon le président, le barrage faisait également partie de la résolution du problème des inondations qui a frappé la province de Kalimantan Sud. Le gouverneur par intérim du sud de Kalimantan, Safrizal, le ministre des Travaux publics et du logement public, Basuki Hadi Mulyono, le chef du cabinet présidentiel Muldoko et le chef du secrétariat présidentiel Heri Budu Hartono ont assisté à l'inauguration. Le ministère indonésien de l'industrie a déclaré que le gouvernement accélérerait le développement de l'industrie des véhicules électriques dans le pays, conformément à la tendance mondiale qui s'oriente vers l'utilisation de véhicules économes en énergie et respectueux de l'environnement. Le directeur général du métal, des machines, des équipements de transport et de l'électronique, ou ILMATE, du ministère indonésien de l'industrie, Taufik Bawazir, à Jakarta, a déclaré jeudi que le gouvernement s'était fixé comme objectif que d'ici 2025, la production de véhicules à moteur électrique à batterie ou KBLBB atteindra 400 000 unités pour 4 et en roue 76 millions d'unités de 2 roues. Cet objectif de production continuera d'augmenter jusqu'en 2030, qui atteindra 600 000 unités de 4 roues et 2,45 millions d'unités de 2 roues. Il a expliqué que l'objectif avait été fixé afin de soutenir la réalisation de l'objectif du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 29% d'ici 2030 et de faire de l'Indonésie l'un des principaux acteurs des constructeurs automobiles mondiaux. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sergeant Longten, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, l'ironie du faux vaccin de COVID-19. Au milieu des efforts durs du monde pour lutter contre le COVID-19, ceux qui trichent, vendent de faux vaccins ou même effectuent des vaccinations à blanc sont très ironiques. Après que le vaccin tant attendu pour vaincre le COVID-19 ait été produit en masse avec succès, il s'est avéré que la faiblesse résidait dans le potentiel de circulation de faux vaccins. Il a été signalé que les citoyens chinois avaient produit de faux vaccins à la fin de l'année dernière et les avaient envoyés à Hong Kong pour être acheminés vers divers pays qui ne sont toujours pas clairs. Bien sûr, cela a provoqué des troubles, surtout pour les pays qui travaillent à l'obtention du vaccin Sinovac fabriqué en Chine. En fait, les autorités chinoises pourraient anticiper cette pratique frauduleuse. Le besoin mondial de vaccins est en effet très important, de sorte que les bénéfices de sa production de masse ne sont pas minimes. Pas étonnant, il y a des partis irresponsables qui sont tentés de profiter de cette situation. Pour éviter toute falsification préjudiciable aux utilisateurs de vaccins, des mesures de protection doivent être mises en place. Mais la réalité n'est pas celle attendue. Après que cette opération de contrefaçon a commencé à se dérouler à la fin de l'année dernière, il s'est avéré que le gouvernement chinois n'a commencé à prendre des mesures contre elle qu'en février de cette année. Des dizaines de personnes auraient fait l'objet d'enquêtes et auraient pris des mesures contre cela. Naturellement, les pays qui ont commandé le vaccin Sinovac à la Chine demandent la clarté et l'assurance que ce qui est envoyé au pays acheteur est original. Pendant ce temps, dans un autre endroit, précisément dans l'état de Nuevo León, au Mexique, 6 personnes ont été arrêtées pour avoir produit de faux vaccins COVID-19. Cette nouvelle a été transmise par le ministère mexicain de la Sécurité et de la Protection civile qui a demandé aux citoyens d'être au courant de la circulation de vaccins contrefaits et de ne recevoir les vaccins que dans les centres de santé publique et les hôpitaux autorisés. Il est ironique que dans une situation de pandémie impliquant la vie et la vie de nombreuses personnes, il y avait encore ceux qui veulent tricher pour le profit. En Indonésie, pour empêcher la circulation de faux vaccins corona, l'Agence des aliments et des médicaments, ou BPOM, dispose d'un mécanisme strict de surveillance de la circulation, y compris en ligne. BPOM travaille également avec le ministère de la Communication et de l'Informatique et un certain nombre de marchés en Indonésie pour superviser la distribution des vaccins, en particulier ceux vendus dans le commerce électronique. Les pays utilisateurs de vaccins doivent être vigilants et effectuer des contrôles croisés afin de ne pas utiliser de faux vaccins. Cependant, les pays producteurs devraient être plus prudents lorsqu'ils effectuent une supervision par couche. Les contrefacteurs de vaccins doivent être sévèrement punis jusqu'à ce qu'un effet dissuasif se produise et que la confiance des utilisateurs soit rétablie. Serge Litter, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 19 février 1948, la conférence des jeunes et étudiants d'Asie du Sud-Est pour la liberté et l'indépendance a été commencée. La conférence des jeunes et des étudiants d'Asie du Sud-Est pour la liberté et l'indépendance s'est tenue à Calcutta, en Inde, du 19 au 23 février 1948. La conférence était organisée par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique et l'Union internationale des étudiants. Il a souvent été affirmé qu'il était le point de départ d'une série de soulèvements communistes armés dans les pays asiatiques. La conférence a été assistée par la délégation de Birmanie, de Chine, de Ceylan, d'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, du Népal, du Pakistan, des Philippines, de l'Union soviétique et du Vietnam. Le 19 février 1960, le lancement du prototype de fusée de recherche de la Chine, T-7. T-7 est le nom de la première sonde roquette chinoise lancée en orbite. Le prototype du T-7 a été lancé pour la première fois le 19 février 1960 et la vraie fusée le 13 septembre 1960. Le T-7 transportait une charge de 25 kg à une hauteur de 58 km. Il a une longueur de 8 mètres, un poids de lancement de 1138 kg et un diamètre de 45 cm. Sonde roquette est également appelée fusée de recherche. Il est conçu pour prendre des mesures et mener des expériences scientifiques pendant le vol sous-orbital. Le 19 février 1960, le massacre de Akaraipatu. Le massacre de Akaraipatu est produit le 19 février 1986 quand environ 80 travailleurs agricoles tamouls auraient été tués par les militaires de l'armée sri-lankaise. Leurs corps ont été brûlés dans la province orientale du Sri Lanka. L'incident est apparu quelques jours seulement après que les dirigeants de la communauté se soient rendus dans un endroit éloigné près de la ville Akaraipatu, où les ouvriers agricoles ont été abattus. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja harus bagaimana menghapuskan bayangmu. dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya?
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis de l'antenne, nous continuons notre programme avec la rubrique Mon Indonésie et pour le titre La coopération économique entre l'Indonésie et la Hongrie. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, s'est félicitée de l'intensification de la coopération économique entre l'Indonésie et la Hongrie, notamment à travers la participation d'entreprises hongroises au projet de système de paiement du péage routier Indonésie. Madame Retno Marsudi, prononçant un communiqué de presse conjoint après la réunion bilatérale avec le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Sijarto à Jakarta mardi, a déclaré que cette collaboration était une réussite de la participation d'entreprises hongroises à des projets d'infrastructure en Indonésie. Une société hongroise, Rotex Ltd, a remporté un appel d'offres dans le cadre d'un projet de développement d'un système de transactions routières à péage à voie multiple ou MLFF. La société fonctionnera pendant 10 ans dans un cadre de concession. Le projet a la valeur à 345 millions de dollars américains. Utilisant 70% de la technologie et de l'expertise hongroise, sera prêt à fonctionner en 2023 sur l'ensemble du réseau routier à péage en Indonésie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Sijarto, a déclaré que la technologie MLFF est utilisée en Hongrie depuis longtemps. On espère donc que les Indonésiens seront également en mesure d'éviter la congestion où les longues files d'attente au poste de péage après le fonctionnement du système. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un système entièrement numérique et qu'il fonctionnera sur toutes les routes à péage d'Indonésie qui sont actuellement enregistrées jusqu'à 2300 km. Cependant, sur la base de développement prévu, le réseau de péage pourrait s'étendre à 4800 km. Afin de financer le projet de réseau routier à péage ainsi que plusieurs autres projets qui sont actuellement explorés par la Hongrie, les ministères des Affaires étrangères ont signé une lettre d'intention pour la formation d'un fonds d'investissement Indonésie-Hongrie à travers le financement de 500 millions de dollars américains, soit environ 6,97 billions rupiah. Le ministre des Affaires étrangères, Sijarto, a déclaré que l'accord pourrait devenir un cadre pour la coopération économique à l'avenir entre les deux pays. Pendant ce temps, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, espère que l'accord pourra ouvrir la voie à une participation accrue de la Hongrie à d'autres projets tels que les infrastructures numériques, les usines de traitement des eaux et les travaux publics en Indonésie. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Harus tertuju
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute! Bonsoir, chers auditeurs. Maintenant, c'est le temps pour le magazine culturel intitulé Tari Chokek. C'est la danse Chokek de Betawi. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, la danse Chokek est un mélange de culture betawi avec des éléments chinois qui existent depuis le début du XXe siècle. Le mot choke vient en fait de la langue chinoise, à savoir chukin, ce qui signifie un châle de moins d'un mètre de long, utilisé par les danseuses pour accrocher leur partenaire. Il existe également une définition de étrangement comme chanteur-danseur, et généralement un étrangement est appelé pour célébrer une célébration, une fête ou une célébration, en plus d'animer l'atmosphère de fête avec des chants et des danses. Les choquets ont également aidé les invités au banquet, comme verser des besoins, ajouter du riz ou des plats d'accompagnement avec une attitude flexible. Dans le développement ultérieur, choke a été défini comme une danse sociale accompagnée par l'orchestre Gambang Kromong avec des danseuses appelées Wayang Choke. Les invités ont eu l'occasion de se joindre à la danse ensemble en faisant équipe avec les choke. Chers amis, la spécialité de la danse choke se voit dans les mouvements du corps des danseurs, qui bougent lentement, ce qui facilite leur suivi. La danse commence par une formation allongée, où un danseur est l'un à côté de l'autre. Après cela, les pieds des danseurs sont déplacés d'avant en arrière, suivis d'étirements des mains à hauteur d'épaule. L'étirement de la main est ajusté au mouvement du pied qui va et vient. Ce mouvement a ensuite été suivi d'une invitation au public à se joindre à la danse. L'invitation au public a été réalisée en enroulant l'écharpe autour du cou. Le danseur le tira en avant. Le processus de danse ensemble se déroule à proximité du danseur et du public, mais sans se toucher. Chers amis, au début de son apparition, la danse choke était jouée par trois danseuses. Maintenant, le spectacle de la danse choke est souvent joué par cinq à plusieurs danseuses et certains hommes en tant que musiciens qui accompagnent en partie les danses féminines. Les vêtements portés par les danseurs de danse choke se présentent sous la forme de crochets et de pantalon, en une sorte de soie aux couleurs vives. À l'extrémité inférieure du pantalon sont généralement décorés avec un tissu assorti. Un long châle était noué autour de la taille avec les deux extrémités pendantes. Les cheveux des danseurs sont soigneusement peignés en arrière. Il y a aussi ceux qui sont tressés puis chignon avec une forme pas trop grande, puis décorés d'un chignon, puis décorés avec du fil de laine tressé ou tricoté. Selon le terme local, on l'appelle l'oiseau on, une sorte de phénix que l'on croit être un oiseau porte-bonheur. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur. Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Maintenant, c'est le temps pour le programme l'Indonésie en couleur. Et je vais vous présenter le festival de manger du papeda en poterie dans le village d'Abar, Jayapura 2021. Chers amis, le festival de manger du papeda en poterie dans le village d'Abar aura toujours lieu cette année. Le festival devrait avoir lieu du 28 au 30 septembre 2021. Le chef de l'atelier de poterie Titian Hidup Kampung Abar, Naftali Fele, a déclaré que le festival avait lieu dans le village d'Abar, district de Bungfau, la résidence Jayapura, Papouasie. Naftali a détaillé que dans une série de festivals, une exposition de l'artisanat des femmes qui fabriquent la poterie sera organisée. Ensuite, il y aura un événement pour manger de la papeda en poterie dans des paraparas, c'est la maison traditionnelle. Le festival de cette année est différent car les stands d'exposition de poterie sont chacun réalisés par un artisan potier devant sa maison. Ceci est fait pour que les visiteurs ne se pressent pas au même endroit. Chers amis, plus tard, chaque stand sera contesté par le comité avec le critère que le matériau est fabriqué à partir des meilleurs palmiers sagou. À la fois le toit et les murs du stand. Chaque stand présentera également des produits issus de plantes de sagou, qu'il s'agisse de verres de sagou ou de champignons de sagou. En dehors de cela, des légumes biologiques cultivés par la communauté Abar seront également fournis. Festival de manger du papeda en poterie dans le village d'Abar cette année est en effet présenté différemment de l'année précédente. Cette année, le comité propose un stand spécial pour les visiteurs qui souhaitent pratiquer la fabrication de poteries traditionnelles en argile. Le festival présentera également un produit de qualité supérieure, des briquettes, des charbons, des bois, des poutres, des sagou. Cher Jamil, l'archéologue du Centre archéologique de Papouasie, Hari Suroto, a admis que le village d'Abar est le seul village de Papouasie où les gens existent encore pour fabriquer de la poterie traditionnelle. Cette tradition doit être préservée notamment à travers le festival de la papeda en poterie. Papeda et poterie, deux produits patrimoniaux naturels et sains. Le comité s'assure qu'il y aura un agent spécial du protocole de santé qui vérifiera et rappellera aux visiteurs de toujours suivre les protocoles de santé au milieu de la pandémie COVID-19. Maintenant, la distance en se lavant toujours les mains et en portant toujours des masques. Mon cher auditeur, c'est tout le programme L'Indonésie en couleur.
Mengenalmu, yakinkan cinta walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu. dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi, Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson des Karungut modernes de la région du Kalimantan central intitulée Turus Janji. Chers amis, cette chanson raconte la promesse d'un couple d'amoureux qui navigueront ensemble dans un lien de mariage. La chanson a été réarrangée avec le genre de musique pop sans perdre ses éléments traditionnels, tout en incorporant un instrument de musique traditionnelle du Kalimantan central appelé la harpe. Ceci est fait pour que la musique sonne plus légère et soit facilement comprise par l'auditeur. Karungut lui-même est un art traditionnel du Kalimantan central en Indonésie, sous la forme de littérature orale ou également appelée pantun antoné. Le chant Karungut raconte les poèmes de la vertu en concoctant divers légendes, avertissements, réprimandes et avertissements sur la vie quotidienne. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Turus Janji, chantée par Ujai Mura et Yeti. Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.